RMC, les grandes gueules.
L'enquête est ouverte sur chef d'assassinat dans la mesure où les premiers éléments semblent se diriger vers un acte prémédité et du chef également de séquestration.
Aujourd'hui, la République pleure l'un des siens. Nous avons, je le dis, le cœur brisé et je le dis aussi, le cœur révolté. Parce qu'il est révoltant en République qu'un serviteur de l'État, un serviteur de la République, un serviteur des Français puisse être inquiété, malmené, agressé, tué en l'espèce parce qu'il fait son travail.
Et tout à l'heure, à midi, dans tous les centres des impôts de France et au ministère de l'économie, c'est une minute de silence qui sera respectée à la mémoire de cet homme.
Oui, d'autant plus que, visiblement, le brocanteur pourrait avoir prémédité son acte. Il aurait préparé les choses, l'enquête le dira précisément. D'ailleurs, c'était un contrôle plutôt complexe, parce qu'habituellement, c'est une seule personne qui se déplace, sachant que le rendez-vous est pris, hein, c'est pas un contrôle comme ça qui se fait par surprise. Et la victime était présente aux côtés de sa collègue. La victime, c'était le chef. Il accompagnait sa collègue pour des raisons de sécurité. Et ses déplacements en binôme, on le sait, n'ont lieu qu'en cas de risque ou sur des dossiers complexes. Donc, il y avait quand même déjà de la tension dès le départ. Mais quand on interroge en plus les syndicats des finances publiques, ils nous disent, mais ça ne, malheureusement, alors là, c'est un drame absolu, c'est rarissime, mais les incidents ne cessent de se multiplier. Notamment, par exemple, j'entendais autour de Toulouse ce témoignage que désormais des vigiles sont présents partout où on doit accueillir le public, parce que depuis le Covid, notamment, il y a beaucoup d'agressivité, de violence et qui s'adresse à tous les agents du service public, pas seulement forcément aux agents des impôts. Et il y a d'ailleurs des revendications qui sont portées par les syndicats, notamment anonymiser les agents qui n'est pas l'obligation de signer leur courrier avec leur vrai nom. Certains demandent même des fausses plaques pour les véhicules lorsque les agents se déplacent pour pas qu'ils soient ensuite repérés ou poursuivis par des contribuables récalcitrants. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que cette violence vous inquiète? Comment avez-vous réagi lorsque vous avez appris la mort de cet agent du fisc?
Est-ce que justement aujourd'hui certains agents de l'État se trouvent en danger lorsqu'ils accomplissent leur mission de service public? 32-16 pour le dire au grand gars Jean-Baptiste.
Mais d'abord, c'est déjà le cas. On a un certain nombre de policiers et de gendarmes qui portent des numéros, qui peuvent les identifier, mais qui ne portent plus leur nom. Ça, c'est suite notamment à l'assassinat du couple de policiers, on s'en rappelle, il y a quelques années.
À Magnanville.
À Magnanville, et qui avait été assez terrible. Moi, je trouve qu'il y a à la fois, effectivement, un fait divers atroce. On ne connaît pas trop les circonstances, d'ailleurs, psychologiques de la personne, mais ça paraît effectivement prémédité, c'est absolument atroce. Et puis après, c'est en même temps assez symptomatique de la violence qui règne dans la société et d'une forme d'affaiblissement de l'autorité de l'État. Et ce qui est encore peut-être plus grave dans le cas de cet inspecteur des impôts, c'est qu'au fond, pour vivre ensemble, il y a trois éléments. Il faut de l'ordre, de la justice, donc des juges, des policiers, des gendarmes. Et il faut, en quelque sorte, un pacte commun qui s'appelle les impôts et un budget commun. Et donc, c'est 100 000 agents.
Le consentement à l'impôt aussi.
Le consentement à l'impôt, c'est au fondement de la démocratie.
Qui est remis en cause aussi.
Et beaucoup. Et donc, il faudra regarder un petit peu les détails, les circonstances du fait divers en tant que tel. Mais c'est vrai qu'une société qui commence à être un peu fragile sur l'ordre, la justice et le consentement à l'impôt, c'est une société fragile. Et donc, ça doit inquiéter.
Joël?
Déjà, je pense qu'il y a en particulier des policiers, c'est vrai, mais il y a des fonctions qui sont détestées en France. Et contrôleur fiscal ou inspecteur fiscal, c'est une fonction qui est détestée, comme huissier de justice. Moi, j'ai fait longtemps du contentieux, je travaillais dans le logement social et j'ai commencé par faire du contentieux locatif. Et donc, j'étais souvent en lien avec des avocats ou des huissiers, beaucoup, puisque ça pouvait aller jusqu'à l'expulsion, malheureusement. Ouais. Et pourtant, n'étant pas huissier moi-même, en tant que juste gestionnaire contentieux, j'étais assimilée aux huissiers. Et c'était même dans ma famille, on me disait, ça se fait pas, en fait, ce que tu fais.
Ouais.
D'autant plus que j'avais une histoire...
C'est même un peu honteux que tu fasses ça, quoi.
Ouais, ça se fait pas. En plus, j'avais une histoire un peu personnelle. Bon, voilà, on a été expulsés, nous aussi. Donc, c'est vrai que c'était pas bien vu. Donc, il y a des fonctions comme ça qui sont vraiment détestées. Moi, j'avais plusieurs fois, j'ai eu à me déplacer sur les résidences pour recouvrer des loyers, donc pour faire tenir des permanences, ce qu'on appelle. On y allait toujours à deux, voire des fois à trois, parce que quand t'arrives, effectivement, y a de la tension, il y a des gens qui te menacent, pas tout le monde, mais souvent, et donc ce sont des métiers qui sont pas du tout faciles, parce qu'en fait, là, ça touche à là où tu mets tout ton cœur. Là, ce monsieur-là, c'est son entreprise, donc j'imagine. Ou des fois, c'est la maison. Donc, c'est vraiment très, 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 très compliqué. Donc, c'est vrai que c'est un drame, mais on oublie souvent. Et je ne sais pas si l'État a conscience, en fait, que il y a quand même dans les services de l'État des métiers qui sont très 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 mal vu, peu importe le consentement à l'impôt, l'inspecteur fiscal, c'est pas un truc, enfin je veux dire, quand tu le dis dans ta famille, ils vont te dire ah oh ouais, c'est un truc de méchant, c'est pas un truc de gentil.
Les services fiscaux ont beaucoup changé. On a voté un truc en 2017 qui s'appelait le droit à l'erreur. Moi, j'ai eu un contrôle fiscal. Même deux.
Bah, c'est bien, ça peut arriver à des ministres.
Et t'en as un, bah, justement, t'en as un systématiquement quand t'es ministre. Et la première chose que les gens te disent, c'est dites toute la vérité. S'il y a, vous avez le droit à l'erreur, donc il faut corriger. En l'occurrence, ça allait. Culturellement, avant, les services fiscaux venaient taper, chercher, traquer, etc. Aujourd'hui, on vous dit, dites-nous la vérité. On regarde, vous avez le droit à l'erreur, on corrige. Donc
et
il y a quand même une phase.
Et on peut négocier aussi.
Et on peut négocier, etc. Ouais. Donc, l'application,
parce que souvent on dira le numérique éloigne. Moi, je trouve que leur application qui est bien faite aide aussi à mieux comprendre comment ça fonctionne, à gérer.
C'est un service qui fonctionne bien.
Voilà. C'est peut-être même le service qui fonctionne le mieux en France.
Monsieur Willy.
En même temps, c'est l'eau.
Sujet compliqué.
C'est passé vers chez toi, à Bullecourt.
On dit que le brocanteur était dans une situation, c'est un père de famille, était dans une situation très, très difficile financièrement.
Très difficile. Alors bon, de toute façon, on voit bien, et comme on le dit tous depuis quelques instants, monter cette haine, cette violence qui devient permanente. Et quand on commence à vouloir s'en prendre directement déjà aux forces de l'ordre, c'est déjà un signe quand même qui est très fort dans ce pays et qui est montant. Donc, alors évidemment, c'est un drame pour la personne qui a été tuée, pour sa famille qui est terrible, mais cette colère qui est en train de venir tout doucement, où il y a des gens qui étaient à un moment résignés, aujourd'hui ils veulent régler un compte avec leur vie ou avec les gens qui viennent et qui dans le fond n'ont rien à voir avec leurs problèmes, faut jamais l'oublier, le contrôleur fiscal n'a rien à voir avec ce qui s'est passé avant, les erreurs elles ont été commises par la personne qui s'est suicidée, c'est lui qui a dû faire des conneries, il faut le dire comme c'est, mais on met sous la, je dirais aujourd'hui à l'analyse de cette société, ce genre de faits divers, je crains qu'ils ne se multiplient de plus en plus. Quand on voit la détresse des gens qui arrivent, qui sont au bout du rouleau, qui disent mais de toute façon j'ai plus rien à perdre. Quand on commence à avoir cette idée de dire j'ai plus rien à perdre, je m'en fous. Et en plus, j'en veux à quelqu'un. Alors, on pouvait être résigné à une époque, maintenant, on en veut aux autres. Et c'est dans tous les domaines. C'est permanent. Ça devient quand même très inquiétant.
La violence contre les élus.
Violence contre tous. Je veux pas rentrer dans le détail, je veux pas refaire l'apologie des ruraux ou des chasseurs. On peut aimer ou pas aimer quelque chose. Comment ça se fait qu'on veut tuer celui qui fait quelque chose qu'on n'aime pas? Ben, c'est le même raisonnement qui aujourd'hui est en train de s'étendre et dans plein de domaines. Donc, moi, je tire mon chapeau à tous ces gens aux forces de l'ordre, d'abord, qui font un travail extraordinaire. Et franchement, c'est dur. Mais maintenant, si on commence effectivement à assassiner les contrôleurs fiscaux et bien d'autres personnes, ça devient
très grave. Tu parles de cette tension qui monte. Oui. On prédit l'année prochaine, 2023, une multiplication justement des cessations d'activité, une multiplication des personnes qui sont en difficulté. Donc si on se retrouve effectivement avec de plus en plus d'agents des impôts ou d'huissiers ou de policiers qui sont obligés d'intervenir sur des contentieux, sur des faillites, sur des gens qui n'y arrivent pas, effectivement, on risque d'avoir de véritables affrontements. Ce que tu racontais à propos de huissier, on l'a vécu nous un jour dans notre immeuble, avec un matin une femme qui est montée sonner chez quasiment tout le monde sur trois étages en disant, il était 8h du matin, tenez je vous confie ça, il y a les huissiers débarqués. Et en fait, il débarquait pour l'expulser de chez elle. Et j'avais jamais vu, un huissier est obligé d'arriver avec un officier de police judiciaire. Et il gronde la porte pour que les gens ne puissent pas revenir ensuite chez eux.
Et donc, elle confiait ses affaires pour pas qu'elle
confiait des affaires, enfin, le plus qu'elle pouvait pour pas que ce soit saisi. Et c'est vrai que c'était hyper violent. Et le mari, l'époux était là parce que c'était de sa faute. Malheureusement, ça faisait des mois qu'il réglait pas les loyers, ni ses fournisseurs, etc. Heureusement que le policier était là, puis nous-mêmes on a essayé un peu d'intervenir, parce que tout le monde se serait foutu sur la gueule, et il voulait attraper tout ce qui pouvait lui tomber sous la main, justement,
C'est pour ça que t'as des tableaux de maître chez toi, parce que je me demandais ce Picasso, dans l'entrée.
C'est ça. Et que j'en ai aussi à la cave.
Mais oui, bien sûr, ce Van Gogh dans le petit salon, je comprends mieux.
Mais non, c'est une clito, c'est un truc que j'ai fait moi-même.
Il va les rendre.
On est paradoxal, parce qu'en même temps, parfois, on veut plus de contrôle, et on dit que quand un immeuble est squatté, etc., il faut appeler les huissiers, il faut faire accéder au droit.
Donc, on sait bien. Certains dénoncent le voisin qui a une belle voiture.
Exactement.
C'est bizarre, il ne doit pas tout déclarer.
Joël Dagosséry.
Je ne sais pas si on va aller jusque-là, mais c'est vrai que pour les huissiers, par exemple, ils sont obligés de réquisitionner la force publique. Donc, ils ne peuvent pas débarquer chez moi tout seul. Ils doivent obligatoirement être accompagnés de la police. Et est-ce que les agents de l'État, en tout cas pour ceux, enfin moi je pense pour ceux qui sont dans le contrôle fiscal et qui sont déjà,
parce qu'on
nous
deux,
dit,
hein.
On nous dit que c'est depuis mai, on nous dit que c'était depuis mai et qu'il y avait déjà des tensions.
Ouais.
Donc est-ce que il faudrait pas dans des cas comme ça
venir
avec avec un gendarme ou deux juste pour le contrôle. Bon, je sais pas s'ils ont que ça à faire, mais malheureusement.
Oui, il y a souvent des tensions quand on arrive à ces phases un peu terminales, mais entre la tension légitime peut-être et la violence, et encore plus la violence préméditée organisée comme visiblement c'est le cas, il y a quand même un étape qui à mon avis qui est difficilement prévisible.
Il a été tué dans le dos, hein.
Il a été tué dans le dos,
au thorax, dans le dos, il a attaché l'autre agent à une chaise.
Oui, mais le chef de service, parce que c'était le chef local, hein, qui est mort, accompagner sa collègue justement parce que déjà il sentait qu'il y avait sans doute un problème, peut-être qu'il fallait la gendarmerie, mais est-ce qu'on a les moyens de déployer la gendarmerie à chaque fois qu'il y a un contrôle un peu compliqué,
et de supposer mais on comprend bien qu'il y a ce cheminement en fin de compte qui va passer du doute, de la détresse, de la colère, et puis à la fin de la violence, et celui qui arrive à la fin, le contrôleur fiscal, qui, on le redit, dans le fond n'a rien à voir avec ça, quoi, il fait juste son travail. Attention. Mais c'est le dernier rapport humain qui va se passer dans un long cheminement, une longue descente aux enfers.
Non, lui, la mérite.
Alors après, vous avez différentes personnes. Là, je pense qu'on a quand même quelqu'un devant nous qui avait sûrement des problèmes, parce qu'on peut être en colère, on peut être violent. Tu viens de le dire, Alain, dans ce qui s'était passé avec cette huissière. Ouais. Lui aussi, c'est le dernier à venir au dernier moment. C'est le dernier rapport humain qui va avoir.
On a tous été témoins aussi de scènes à la poste ou à la sécurité sociale.
Il y a une exaspération quand même.
Qui tape, qui envoie des choses contre l'huissier et autres. Ça monte.
Et tout ça, c'est lié directement, et on le voit bien quand même, à cette dérive des réseaux sociaux qui aujourd'hui sont
Moi, je pense qu'il y a, là, parce que c'est un agent du fisc, il n'y a pas un problème de consentement à l'impôt. Moi, je pense que les Français.
T'as raison, Olivier, mais quand t'as plus rien, évidemment, et quand ça va
les
pas.
Les Français sont accablés d'impôts, leur salaire n'augmente pas suffisamment, et en plus, on leur dit matin, midi, soir que l'État est défaillant dans plein de domaines, à l'hôpital, dans la justice, l'école, enfin, tous les jours, les infirmières qui ne veulent plus travailler, etc. Donc, tous les jours, les chauffeurs de bus, bref, tous les jours, on voit que ça ne fonctionne pas, ces services publics, et on n'a jamais autant prélevé d'impôts. Moi, je pense qu'il y a un problème de consentement à l'impôt. Alors, ça ne veut pas expliquer ce qu'a fait ce brocanteur, mais d'une manière générale, il y a une révolte, et mais, c'est que les révoltes fiscales, les jacqueries fiscales, c'est en général les plus terribles.
Hein, et à l'État et tout ce qui représente l'État.
Et je pense aussi, parce que c'est de plus en plus difficile de travailler au contact du public quand on sort des services publics, même la caissière, la vendeuse. C'est vraiment de plus en plus difficile. Moi, je sais que déjà à l'époque, dans mon métier, j'avais déjà des collègues qui refusaient de prendre le téléphone. Donc moi, je continuais à le prendre, mais il y a des collègues qui ne voulaient plus qui voulaient faire de l'administratif et ne plus décrocher le téléphone, parce que quand les gens ont besoin d'un logement et que ça fait 4 ans, 5 ans, 10 ans qu'ils attendent, ils sont agressifs, c'est vrai. Donc c'est vrai qu'il y a déjà ce souci-là. Mais ensuite, pour les services de l'État, là vraiment, je me fais un peu l'avocat du diable, mais on a aussi subi, je suis désolée, beaucoup de petits fonctionnaires, pardon de le dire, mais qui étaient assez autoritaires et assez désagréables. Et aujourd'hui, moi je sais que ma sœur,
c'est comme ça, c'est pas autrement.
C'est autrement.
C'est
et qui vous renvoie d'une manière vraiment. Et vous n'avez aucun pouvoir, parce que il est à l'entrée de la mairie, à la réception, etc. Et elles sont désagréables. Et donc le problème, c'est qu'aujourd'hui, les gens n'acceptent absolument plus ça.
Eh bien, on va continuer d'en discuter avec Cédric dans un instant. Il nous appelle du Var à propos de ces agents de l'État qui se retrouvent en première ligne et potentiellement en danger. 32-16 pour en parler avec les grandes gueules.
RMC. 9h midi. Les grandes gueules. Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les grandes gueules sur RMC, RMC Story tous les jours à 11h. Vous savez que c'est vous qui choisissez le sujet de discussion. À vous de choisir. Aujourd'hui, on vous a fait deux propositions. Est-ce qu'il faut amnistier les gilets jaunes ou l'explosion des démissions à la RATP? À qui la faute? On trouve pas de conducteur marquant, on trouve pas à la RATP, on ne trouve pas pour reconduire les trains, on n'en trouve pas pour les bus. Enfin bon, vous choisissez sur rmc.fr, on en parle à 11h. On revient sur le meurtre de l'agent du fisc. Les agents de l'État sont-ils en danger? Cédric, bonjour.
Oui, bonjour. Merci de m'accueillir.
Monsieur Cédric du Var, alors qu'en dites-vous?
Eh bien, écoutez, je suis assez proche de ce que j'ai entendu dans vos témoignages de vos intervenants, et notamment le dernier, une personne où je m'en suis senti proche, où on a dit des fois, il y a quelques années, on est tombé sur des agents des impôts, des petits tyrans qui vous accueillent sèchement, qui ne prennent pas la peine de prendre en considération, moi je l'ai dit tout à l'heure, j'ai dit ils instruisent, j'ai eu affaire à une instruction à charge. Pas un enquêteur, un inquisiteur.
Oui.
Alors, c'était il y a 20 ans. C'était il y a 20 ans. Oui, c'est vrai que maintenant, je me suis rendu. L'accueil est tout à fait différent. La personne est là. Vous êtes peut-être trompé. Bon, voilà, ça se passe très bien. Oui, ça s'est amélioré et considérablement bien amélioré. Donc voilà, donc je me dis oui, c'est un drame, mais est-ce qu'on se pose la question de savoir ce qui s'était passé en amont, puisque visiblement la personne a prémédité son action. Elle a prémédité son action. Alors, je ne veux pas charger cette personne, ce serviteur de l'État. Parce que
non, parce qu'il est mort, hein, il a été assassiné quand même.
Il est mort, hein. Il a été assassiné.
Et sa collègue a été traumatisée, a été ficelée.
Mais bien sûr, et c'est grâce aux impôts que tous les jours, eh bien, moi aussi, je veux dire, je profite d'une certaine redistribution de l'État. Ouais. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais c'est vrai, là, excusez-moi, peut-être que mon témoignage est mal à propos. Et je m'en excuse si c'est mal interprété, je me fais un peu l'avocat du diable, mais qu'est-ce qui s'est passé pour que cette personne en arrive à se dire, voilà, c'était un père de famille lui aussi, voilà, je vais tuer tout le monde. Et ça mérite quand même qu'on se pose la question, et je me dis humblement, moi, à mon niveau, il y a 20 ans de cela, j'ai vu le changement, je suis tombé, oui, sur des petits tyrans, quoi. Voilà.
Ouais. Donc, et à ce que disait Joël, heureusement, ça a évolué, mais il y a eu aussi un rapport entre certains services de l'État et les Français qui a été fort heureusement amélioré, mais on avait l'impression d'être dans un rapport de force qui était complètement inégal, quoi,
Tout à fait, heureusement, la charte Marianne, le rapprochement, oui, il y a eu.
Ça a changé, ouais. On va continuer d'en discuter, Cédric, avec Philippe. Bonjour, Philippe.
Oui, bonjour.
Parce que vous êtes agent de la fonction publique, vous-même.
Oui, alors, je suis agent de la fonction publique, donc moi-même. Alors, je ne consomme pas du tout donc le meurtre de l'agent des impôts. Je ne considérerai jamais le meurtre de tout agent de l'État ou autre. Hein. Mais par contre, je reviens un peu sur la personne qui a intervenu avant. Donc, c'est-à-dire qu'on est reçu vraiment comme des malpropres. C'est-à-dire que chacun, on vit des moments très pénibles, très difficiles de la vie courante.
Ça vous est arrivé?
On s'en sort pas. Oui, il y a un moment, j'étais en maladie. Le temps que mon dossier soit reconnu en maladie professionnelle en plus, je suis aussi reconnu à 80% donc handicapé. Et donc, j'avais des grosses difficultés. Donc, j'avais un revenu qui était à peu près de 500. On avait contacté donc des crédits ou quoi que ce soit. Et donc, je m'en sortais plus. Donc, huissier, alors qu'il venait taper à la porte. Moi, on me prélevait sur mon compte des sommes très importantes. Les frais de dossier, donc avec même des arrangements, quand on décide de payer 100 euros par mois, des frais de dossier donc de 200 euros qui dépassent le montant de ce que pouvait lui donner. Donc, on essaie de retirer le maximum d'argent, pareil, à la banque. Une fois, j'avais mis 200 euros chez moi pour moi vivre. Un huissier rentrait chez moi à piquer donc dans un moulin que j'avais caché de l'argent. Et donc, voilà quoi. Et ils comprennent pas. On essaie de discuter avec eux, négocier. On est harcelé au téléphone, harcelé par le mail. Ouais. Ils viennent, ils sont désagréables, aucune compassion. Et alors, comme je disais, hein, attention, je ne parle pas de vouloir tuer une personne, mais moi-même, par moment, je vais vous mettre fin à mes jours. Je souhaiterais moi-même mettre fin à mes jours pour voir disparaître ce genre de situation.
Oui, parce que vous étiez dans le désespoir et vous auriez aimé un peu plus de compassion à ce moment-là, quoi. Qu'on vous écoute et qu'on vous tende la main, quoi. C'est ça. Ouais.
Tout à fait.
Mais Philippe, l'huissier ou l'agent du fisc, il n'est pas là pour ça, dans ces cas-là.
Il n'est pas là pour ça.
Oui, mais l'huissier, disait l'autre, c'est un sale boulot, mais il faut le faire. Voilà. Et il est mandaté pour venir récupérer de l'argent que vous devez à l'État ou à des créanciers.
Imaginez que c'est ça. Quand vous êtes huissier, on en a parlé.
Quand on vous donne des arrangements, par exemple, mais qu'on vous retire des frais de dossier qui sont trois fois de ce que vous pouvez donner, ça devient insupportable, quoi.
Ouais. Ouais, mais je pense aussi, là, vous avez des gens en face de vous qui arrivent, qui ne sont pas...
Par exemple, 2 000 euros, on va prendre l'équivalent de 2 400 euros, donc quelquefois le double, triple de ce que vous devez.
Bah oui. Ah, mais ça, c'est une règle de la loi.
Je pense qu'il y a quand même un sujet en fonction de qui...
Qui tu es en face de toi.
Et puis de qui tu es dans la société. On en parlait l'autre jour pour l'hôpital, mais moi, franchement, je viens d'une famille très modeste et j'ai vu, par exemple, sur le plan financier, comment on pouvait être traité quand on n'avait pas trop de fric dans une banque, un service public, etc. Et donc, le mec qui a un peu de fric et qui se prend des agios, il appelle sa banquière en disant « Madame, en fait, vous avez fait une erreur, vous allez me rembourser. » Et il est remboursé. Le mec qui a pas de fric, il paye ses agios. Et donc, il y a ce truc-là quand même dans la culture du formulaire. Et même si ça s'améliore beaucoup, quand t'es pas très aisé en France, t'es encore moins bien reçu dans les services publics. Et t'en as encore plus besoin. Donc je pense que il faut, voilà, c'est pas uniforme. Il faut prendre en compte que c'est pas uniforme. Et ça excuse évidemment en rien le geste du type. Mais sincèrement, je pense que
oui, d'autant que disais, celui qui est le brocanteur dont il est question, visiblement, il avait été signalé
pour des années précédentes.
Alors des faits de violence, on va dire des bousculades, le type il était peut-être un petit peu sanguin, quoi.
Je veux dire, quand t'es précaire, il faut que tu sois bien accueilli, encore mieux accueilli dans les services publics. C'est ça que je veux dire. Il y a quand même beaucoup de France, beaucoup de gens en France qui sont précaires.
Comme cette personne, effectivement, et t'as raison, Alain, il y avait quand même un petit peu de passif derrière tout ça. Donc il y a un moment, bon, quand on cible la personne et qu'on sait qu'il y a déjà faut se méfier. Et là, peut-être effectivement, dans des cas précis, là, que l'État mette en place un service pour accompagner un agent du fisc dans ces cas précis, quand on sait que la personne en face est fragile. Bon, après, on écoute ce que dit notre auditeur, mais je suis désolé, il y a peut-être des agents de l'État qui se conduisent mal, mais il faut voir aussi, dans la journée, quand on a passé trois, les noms d'oiseaux que tu dois te prendre, les insultes, quand t'es huissier, quand t'es agent du fisc, t'arrives forcément. On est dans un moment de détresse, ça va pas. Mec, c'est peut-être sa vie qui est en train de s'écrouler. La boîte va être dissoute. Tu vas passer sous syndic. Enfin bon, on connaît ça très bien.
Il y a même ça au guichet. Bon, mais quand tu vas à la poste.
Et puis t'en as marre, et puis t'es énervé.
Tu parles aux gens au guichet.
C'est quand même un service.
Il y a aussi une question.
Moi, qui parle aux gens? Celui qui est derrière le guichet ou celui qui est devant?
Alors parfois, la personne qui est au guichet parle pas très bien, mais souvent le client ou l'usager parle mal.
Il faut le dire.
Donc forcément, quand tout le monde parle mal, il y a quand même un problème d'éducation.
C'est un problème d'éducation. On respecte de moins en moins l'État, mais cherchez un petit peu. Ça fait combien d'années là que ça dérive? Où on a quand même des leaders politiques qui crachent au visage de l'État et qui dénigrent sans arrêt les services publics, les politiques. À un moment, qu'est-ce que vous croyez que les gens qui écoutent ça à longueur d'année, comment ça va finir? On voit le début de ce qui va arriver si les choses ne changent pas vite. Il y a un moment, il faut quand même respecter l'État, le monde politique, tout ça. Il faut arrêter de cracher sur les gens et de donner de la haine dans tout ça, parce qu'il y a des gens simples ou un petit peu fatigués de la tête, comme on le voit là, parce que c'est quand même un peu le cas, on va tourner autour du pot, qui vont prendre ça au pied de la lettre et on aura des drames comme ça à répétition. Donc il faudra vraiment qu'il y ait des gens qui se posent des questions et qui arrêtent de
Joël, propager tout ça. Il y a aussi tout un discours, alors je ne sais pas d'où il vient, peut-être de l'État ou quoi que ce soit, mais qui laisse penser aux Français que je paye des impôts, donc c'est moi qui paye ton salaire. Et tu as aussi cette façon, des fois, de prendre les fonctionnaires pour tu m'appartiens.
Oui, en gros, d'abord, il n'y a que 50% des Français qui payent des impôts.
Oui, c'est vrai.
50% des ménages.
Mais c'est une phrase qui revient assez souvent sur les agents du service public, de je paye tes impôts, même sur les policiers. Hein. D'ailleurs, c'est moi qui paye tes impôts. Souvent, t'as l'automobiliste qui va dire ça aux policiers. Donc, il y a aussi ça. Et c'est vrai que les impôts en France sont vraiment vus. Enfin, ils sont pris par le mauvais bout à chaque fois. C'est soit tu m'appartiens parce que je paye des impôts, soit je consens pas aux impôts. Donc il y a vraiment un problème sur ce que l'État fait peser sur nous termes d'impôts.
On a évoqué les huissiers. On a un clerc d'huissier qui nous appelle. Je remercie Philippe de Seine-et-Marne d'avoir été avec nous. C'est Anthony qui est dans les Yvelines. Bonjour Anthony.
Oui, bonjour. Je vous appelle parce que moi je suis clerc d'huissier, donc clerc significateur. Donc moi je suis toute la journée sur le terrain, tout seul. Donc je travaille, j'habite dans les Yvelines, je travaille dans l'Essonne.
Ça doit être chaud.
Et
voilà,
je vous explique. Moi, j'ai été attaqué au couteau pour une assignation en divorce. J'ai pris un coup de couteau parce que je venais délivrer à monsieur une assignation en divorce. J'informais qu'il avait divorcé. Sa femme était présente dans le domicile. J'ai pris un coup de couteau.
Comment ça s'est passé?
J'ai toqué à la porte le matin. Oui. Madame était là. Voilà. Je me présente. Donc elle va chercher monsieur. Madame sort du logement. Monsieur ne parle pas. J'informe que tous les deux, et là, monsieur me dit « Si vous me donnez le document, on viendra chercher votre corps. » Il s'est retourné, il a pris un couteau, il m'a poursuivi. J'ai eu le temps, on n'a pas le droit, mais je le fais quand même, j'ai eu le temps de lui mettre un coup de gaz lacrymogène et j'ai pris un coup de couteau.
Vous l'avez pris comment, le coup de couteau, ou ça?
Je l'ai pris au niveau de la cuisse, le coup de couteau.
Ah oui.
Et ensuite, voilà, il a été arrêté,
et par chance, au moment où je prends le coup de couteau, la police municipale venait de prendre son service et passer à ce moment-là.
Il a été condamné?
Pas encore, parce que c'est arrivé il y a 6 mois, donc on est en attente.
On espère que la justice sera traitée comme
ça. Anthony,
mais pardon, vous dites, j'avais du gaz lacrymo sur moi, j'avais pas le droit. C'est-à-dire que vous-même, vous aviez décidé de vous protéger avec ça?
Exactement, parce que voilà, moi je travaille dans l'Essonne, donc Grigny, quand vous allez à 16h30 à la Grande Borne, que vous êtes tout seul, vous n'avez pas de radio, vous n'avez pas d'équipage, vous n'avez rien. Vous montez au 17e étage de la tour, je vous laisse imaginer comment on est reçu. Déjà, même rien qu'en tirant le frein à main de la voiture, comment on est reçu.
Ah ouais. Mais vous êtes tout seul,
je disais, c'est très dur.
Oui, parce que
très
moi, dur comme travail, job. moi, je fais le travail avant l'huissier.
Ouais.
Donc moi, je toque à votre porte, je vous dis, voilà, on vous a bloqué votre compte bancaire. Voilà, on va vous expulser. Voilà, madame veut divorcer.
Toutes les décisions de justice,
c'est moi qui les donne.
Oui, parce que là, j'imagine que lui, il était contre le divorce. Visiblement, il doit être violent aussi avec sa femme. Parce
monsieur, il avait un casier judiciaire long comme le bras.
Ouais.
Bah, voilà. Et madame, par peur, ne lui a pas dit qu'il voulait divorcer.
Bah, ouais. Comme je disais, celui qui arrive au bout de ce cheminement-là, c'est hyper dangereux.
Oui, mais alors, ce qui n'est pas normal, c'est que vous soyez seul, pardon, mais vous devriez être accompagné.
Voilà, c'est-à-dire que moi, je fais 30 à 40 décisions de justice par jour. Je sais que sur les 30 ou 40, je vais en avoir 5-8 où ça peut vriller à n'importe quel moment.
Peut déraper totalement.
Et moi, je sais, à force, on connaît le métier. Il y a une ligne à ne pas franchir. Et si on franchit cette ligne, on sait que ça peut vriller à tout moment.
Et
j'ai pris une cocotte minute sur la voiture du cinquième étage. Enfin, voilà.
Vous avez eu envie d'abandonner ce métier à un moment ou pas? Parce que vous êtes jeune, vous avez 25 ans.
25 ans, pas du tout. Parce que moi, je me dis que derrière, il y a quelqu'un qui met tout sur nous pour essayer de récupérer son argent, etc.
Ouais, vous êtes utile.
Voilà, c'est ça. Moi, après, les personnes à qui je délivre, donc à qui on a bloqué le compte bancaire, peut-être que ça fait de la peine, etc. Mais derrière, il faut penser à la pauvre personne qui a des problèmes aussi d'argent.
Mais pardon, mais vous dites, donc vous avez balancé du lacrymo et ça vous a sans doute sauvé.
En fait, quand je l'ai gazé, il a trébuché, c'est là où le couteau est rentré dans ma
caisse. Mais parce qu'en fait, vous dites, si je suis pas armé, en fait,
mais je rentre pas. Si j'ai pas
moyen de défense. Ouais.
Voilà. Après, c'est pas pour aller à la guerre. Hein. Moi, je sais que le gaz lacrymogène, c'est pour dégager d'une situation.
Pour sauver sa vie, peut-être. Ouais.
C'est-à-dire,
ça
me permet.
On en est là quand même.
Ouais, on en est là pour sauver sa vie.
Et donc, il est clair. Il travaille chez un huissier. Il est clair. Et pour sauver sa vie, pour simplement faire son métier, il a besoin d'être armé. Quand
écoutez, Anthony. Par exemple, aujourd'hui, votre journée type. Aujourd'hui, là, il est 9h. Vous savez que vous allez avoir des situations compliquées encore là dans la journée.
Je sais. Là, je dois remettre des commandements de saisie vente, etc. Voilà, j'annonce aux gens que s'ils ne payent pas sous 8 jours, l'étape d'après, c'est la saisie au domicile. Voilà, on sait, on informe les petits. Enfin, voilà.
Il y en a plus. Est-ce qu'en ce moment, il y en a plus?
Oui, tout le temps, c'est quotidien. Là, on est en fin de mois, c'est là où tombent les dénonces de SAT, donc les dénonces de saisie. On a bloqué les comptes, etc. On sait que ça peut se
risquer. Mais avec la vie plus chère, est-ce que là, cet hiver, on peut craindre, effectivement?
On a des gens. Moi, au moment où on m'ouvre la porte, je sais si c'est un accident de la vie ou pas. En quelques secondes, je sais si la personne, c'est un accident de la vie. Donc, on est un peu plus indulgent, on dialogue.
Comment vous le savez?
La personne, quand on vous ouvre la porte et qu'on vous dit non, je peux pas payer, et que derrière vous voyez une télé que même moi je peux pas m'acheter, vous savez forcément.
Ça, c'est pas un accident de la vie.
Là, c'est pas un accident de la vie.
Merci de ce témoignage, Anthony. Merci de cette franchise et de nous avoir raconté votre quotidien. Salut, Anthony.
C'était passionnant.
Même d'un agent du fisc, qu'est-ce que les agents de l'État sont en danger aujourd'hui? C'est la question que l'on a posée sur les réseaux sociaux. C'est un oui à 68%.